Allez, lundi 26 janvier 2026, il est 18h01 sur Radio Campus Paris en FM et sur le web. Et à 18h cette année toujours, vous écoutez La Relève. Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième numéro de 2026 de La Relève. La Relève, c'est toujours le quinzomadaire radiophonique de Radio Campus Paris qui s'intéresse aux nouveaux talents et aux récits originaux. Ce soir, on parlera de science, de récits justement, et d'Amérique. Mon invité est écrivain. Bonsoir Benjamin Hoffmann.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation.
La guerre des eaux n'est pas votre premier roman, vous publiez même depuis 2011, mais bon, à La Relève, on aime avoir des règles, mais on aime aussi s'autoriser des écarts, et on vous remercie d'être là. J'ai envie de parler de votre enfance, vous étiez plutôt Jurassic Park ou Le train sifflera trois fois ?
Ah, j'étais tout à fait Jurassic Park, oui absolument, c'est un film qui a marqué mon enfance et qui a fait naître pour moi une fascination pour les dinosaures, comme pour des dizaines de millions, je suis sûr, d'enfants à travers le monde, et c'est effectivement une source lointaine du roman dont nous allons parler aujourd'hui.
Alors bien évidemment, je parlais aussi du train sifflera trois fois parce qu'on est quelque part dans votre roman entre Jurassic Park et Le train sifflera trois fois, ça vous va ? Si je vais pas dire que je résume, mais si j'ouvre la discussion de cette façon.
Oui, c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne confrontation, puisque effectivement, comme dans un western, mon roman a une dimension de conflit, met en scène un conflit entre deux personnages, deux Américains qui se sont détestés, qui se sont entretués avec presque autant de férocité que les personnages d'un western, effectivement.
Alors, c'est l'opposition de deux scientifiques dans la seconde moitié du 19e siècle des États-Unis. L'un s'appelle, son nom est très difficile à dire pour moi, Charles Marsh. C'est pas facile, hein, Charles Marsh. Mmh. Et le second s'appelle Edward Cope. Alors, ils ont tous les deux vraiment existé. J'ai vérifié parce que j'ai même rêvé à un moment que c'était une géniale mystification littéraire. Maintenant, ils ont vraiment existé. Et vous, comment les avez-vous connus ? Comment avez-vous appris cette histoire dont vous traitez dans ce livre ?
Alors, on parlait à l'instant de Jurassic Park. Il se trouve que, comme tous les enfants de ma génération, je suis né en 1985, je me suis fasciné pour les dinosaures à cette époque déjà lointaine. Et lorsque j'étais enfant, mes parents m'ont donné à lire un dictionnaire des dinosaures, où il était effectivement question de ces deux protagonistes américains.
Ah, déjà ?
Oui, c'était juste un petit encart, si vous voulez, dans un texte vraiment écrit pour un public d'enfants, d'adolescents. Et c'est vraiment une histoire qui m'avait vraiment frappé à l'époque, que j'ai oublié pendant de très nombreuses années, mais qui a néanmoins laissé une place dans mon esprit en raison de l'intensité de la rivalité dont ils ont fait l'expérience, et aussi d'un détail en particulier, détail sur lequel je reviens assez longuement dans la dernière partie du roman, puisque ces deux individus se détestaient avec une telle férocité qu'ils ont voulu déterminer après la mort qui était le plus intelligent, et l'un d'eux a même donné son cerveau à la science afin qu'il soit pesé et prouvé qu'il avait une masse cérébrale plus imposante, plus lourde que son opposant, si vous voulez. Donc c'est un détail qui est resté avec moi et auquel je suis donc revenu lorsque, des années plus tard, j'ai écrit ce roman La Guerre des Eaux.
Moi, je pensais que, parce que en consultant votre biographie, j'ai découvert que vous étiez professeur à l'université de l'Ohio State. Mm-hmm. Et vous avez été doctorant à Yale. Un des deux personnages était à Yale. Moi, je pensais que c'était en étant doctorant que vous aviez découvert la personnalité de Charles Marsh. Pas du tout.
Non, c'est vraiment une découverte qui est beaucoup plus ancienne. Mais il est vrai que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, la connexion, la Yale connection, on pourrait dire, a été un des facteurs qui m'a particulièrement intéressé dans cette histoire, qui m'a donné envie de la raconter. Parce que d'une certaine manière, l'Université d'Yale a joué un rôle important dans ma vie personnelle, ma vie de professeur, mais aussi dans mes textes littéraires, puisque dans un précédent roman qui s'appelait American Pandemonium, il en était question, et dans un autre roman publié chez Gallimard qui s'appelle L'île de la Sentinelle, il était également question de la ville de New Haven et de l'Université d'Yale. Donc c'est d'une certaine manière, voilà, j'écris assez régulièrement sur cet espace qui m'a beaucoup marqué pour différentes raisons, parce que c'est une sorte de microcosme des États-Unis, me semble-t-il, et c'est effectivement un des facteurs qui a joué un rôle dans mon choix de traiter ce thème.
Pour reposer ou pour compléter ma question, Je voulais savoir si aujourd'hui il est encore quelqu'un de connu. Est-ce qu'il y a des monuments à sa gloire? Est-ce que si demain moi je vais à Yale, je vais voir un monument, croiser un bâtiment qui porte son nom, une salle, quelque chose?
Oui, tout à fait, parce que vraiment la personne de Othniel Charles March, c'est vraiment une personne qui a marqué l'histoire de l'université, et d'au moins deux manières. D'une première manière, puisqu'il a donné sa maison à l'université, qui est devenue maintenant un monument historique. Donc effectivement, si vous rendez à New Haven, vous verriez la maison, vous pourriez la visiter, et c'est une espèce de mausolée, si vous voulez, à sa mémoire. Mais aussi, et sans doute de manière encore plus importante, parce que March est à l'origine de la construction d'un musée, le musée d'histoire naturelle, où sont entreposées toutes ces découvertes paléontologiques, qui ne portent pas son nom, qui portent le nom de son oncle, le George Peabody, qui est une figure majeure de la philanthropie américaine, et qui donc porte le nom de Peabody Museum. Donc il a vraiment laissé une marque effectivement architecturale concrète dans l'université, et il a contribué à sa grandeur. Oui.
On vient de parler un peu de Charles March. Est-ce qu'on peut parler un peu d'Edward Cope?
Bien sûr.
Alors, qui est-il? Je vous laisse le présenter.
Edward Cope, si vous voulez, c'est une espèce de double, hein, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu, je l'ai représenté dans le roman. C'est un homme qui est un petit peu plus jeune que Charles March, il a 8 ans de moins, qui vient d'une grande famille de la côte Est, une famille Quaker arrivée au début du XVIIe siècle aux États-Unis. Une famille patricienne, une famille très bien installée, très riche, et qui, enfant, est une espèce de petit Sartre. D'ailleurs, j'ai fait un certain nombre de parallèles entre la personne de Jean-Paul Sartre, telle qu'elle se décrit elle-même dans les mots avec Edward Cope. C'est une espèce de génie précoce, un petit peu fanfaron, un petit peu histrion, voilà, qui parfois joue un petit peu la comédie justement du garçon génial, et qui va se passionner pour la paléontologie en même temps que son rival Charles March. Ils vont véritablement écrire leur vie en parallèle et ne cesser de se détester, de se poursuivre l'un l'autre, et finalement de donner le même but à leur existence, au point même de l'empoisonner et finalement de la détruire.
En vous écoutant, je me demande, en fait, leur passion, c'était la paléontologie ou c'était d'empêcher l'autre?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait, en vérité, ni l'un ni l'autre n'était passionné par la paléontologie au début de leur carrière. March, en fait, était passionné par la minéralogie. C'était vraiment ça, sa passion. Et il se trouve que, pour des raisons un peu de carrière, on lui a fait comprendre qu'il y avait un poste en paléontologie à Yale, qu'il n'en aurait pas un pour lui en minéralogie. Donc, il s'est orienté vers la paléontologie pour faire une belle carrière universitaire. Et en fait, Cope était, lui, passionné vraiment d'histoire naturelle et notamment de serpents. Son premier article était, par exemple, sur les salamandres. C'était un esprit, en fait, très, très, très curieux. Et je dirais que si on se souvient d'eux à notre ère, de nos jours, si on parle d'eux aujourd'hui, c'est davantage pour cette compétition, cette guerre des eaux, et qui a été peut-être, comme vous le suggérez très, très justement, leur véritable passion, une passion de la domination, de la conquête, sur autrui, absolument.
Est-ce qu'on peut dire que votre livre est une critique de la passion? On a beaucoup de livres qui sont des éloges de la vocation, de l'artiste, par exemple. Si on s'écarte du champ artistique, scientifique, et qu'on va dans l'art, la vocation est toujours vue comme quelque chose de très beau, quelque chose auquel on sacrifie tout. Est-ce que vous avez eu envie aussi, peut-être, d'être un peu un moraliste et de remettre un peu de distance dans cette idée que si on a une vocation, il faut la suivre à tout prix?
Alors, vous savez, Tchekhov a dit une chose qui m'a marqué.
Tchekhov a toujours raison.
Oui, c'est pour ça que je l'invoque, dans notre conversation. Tchekhov dit la chose suivante. Le but d'un livre, ce n'est pas de répondre à un problème, c'est de le poser correctement. Et je pense que ce que vous dites est absolument juste. C'est effectivement un livre sur la passion qui pose le problème de la passion. Je ne sais pas si j'arrive à y répondre, mais en tout cas, j'ai essayé de poser la question de ce qu'on pourrait nommer l'ambivalence de la passion. Ambivalence pourquoi ? Parce que ces deux personnages, véritablement, arrivent à produire une œuvre universitaire absolument colossale, presque aussi colossale que les animaux préhistoriques dont ils se préoccupent. Ils sont véritablement poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cope est quelqu'un qui aurait très facilement pu se disperser, mais justement son attention est focalisée par la haine de March. March est quelqu'un, qu'on décrit, notamment au début de sa vie, comme un peu procrastinateur, qui aurait, lui, très facilement pu se contenter d'une carrière un petit peu plan-plan, ouais. Tranquille, d'autant plus qu'il était payé par son oncle. Et au contraire, il est poussé à l'excellence dans le domaine scientifique par cette rivalité. Mais en même temps, c'est pour ça que je parle bien d'une ambivalence. Ambivalence en effet, parce que cette passion, et là on retrouve peut-être aussi justement, vous employez le mot moraliste, c'est très juste, on retrouve peut-être la critique de la passion qui est formalisée par le XVIIe siècle, par les moralistes comme La Bruyère par exemple, mais leur passion les pousse aussi à se détruire. À se détruire, puisque leur fortune entière est absorbée par cette compétition paléontologique, parce qu'ils en arrivent à des extrémités absolument terrifiantes pour se mettre des bâtons dans les ronds l'un à l'autre, mais aussi ils détruisent les gens autour d'eux, ce qui est peut-être encore pire. Ils détruisent leur famille, ils détruisent véritablement celles et ceux qui ont pu les aimer. Donc c'est véritablement un roman sur l'ambivalence de cette passion, et c'est ce problème-là effectivement que j'ai essayé de mettre en récit.
Et est-ce qu'en tant qu'écrivain, quand vous découvrez, alors j'imagine que vous avez travaillé, vous avez beaucoup de recherches pour arriver à ce roman, vous avez dû beaucoup, beaucoup travailler, est-ce que ce fil de la haine, il y a quelque chose, comme écrivain, quelque chose de jouissif à le trouver, parce que là vous avez des rebondissements. D'ailleurs, souvent, en fin de chapitre, vous vous amusez à annoncer attention, parce que là, ils vont encore aller plus loin. On sent bien que ça vous amuse peut-être aussi de dire au lecteur, hein, vous croyez avoir tout vu, mais il en reste encore. Est-ce que ça a simplifié votre travail? Est-ce que ça vous a donné un fil?
Oui, absolument, puisque d'une certaine manière, comme je le suggérais il y a un instant, même leur œuvre scientifique, en fait, elle dépasse le domaine de la paléontologie. Cope s'est beaucoup intéressé aux serpents, March avait un intérêt, par exemple, pour aussi l'anthropologie, s'intéresser aux minéraux, comme vous le rappelez, effectivement. Et donc, d'une certaine manière, il y a dans leur histoire, il y a également des rebondissements politiques très, très importants. Donc, d'une certaine manière, ça aurait pu devenir un roman très, très foisonnant si j'avais voulu embrasser tous les domaines de leur activité intellectuelle. Mais précisément, le fil de la haine m'a permis de concentrer le récit autour de leur rivalité, de ce qu'elle a pu avoir de délétère, de destructeur pour l'un et l'autre.
Oui, et du coup, vous ne faites pas deux biographies parallèles. Vous racontez vraiment l'histoire de la relation entre ces deux personnages qui n'est pas une histoire d'amour ni d'amitié, on ne sait pas très bien comment la définir, qui a un rapport scientifique, mais qui est plein d'affect. Oui, c'est passionnant à découvrir tout l'affect dans cet univers qu'on imagine très rationnel.
Oui, c'est une autre ambivalence, effectivement, puisque à la fois, ils sont des esprits brillants, formés dans les meilleures universités du pays, au contact des meilleurs spécialistes de leur temps. Mais en même temps, il y a quelque chose qui les dépasse dans le domaine de l'obsession qu'ils nourrissent l'un pour l'autre. Et c'est là que le travail du romancier devient intéressant, parce que certes, j'ai voulu reconstituer autant que possible les faits, les étapes objectives de cette rivalité, qui a notamment été une rivalité très, très public hein, dans les journaux, qui a eu aussi des répercussions politiques importantes.
Oui, mais parce qu'ils n'hésitent pas à utiliser leur entre-genre politique pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à l'autre.
Absolument, oui. Et notamment, March s'y entendait particulièrement bien, puisque c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-genre, beaucoup de contacts, beaucoup de relations. Il n'a absolument pas hésité à employer vraiment tout ce qui était en son pouvoir pour détruire son adversaire. Tout à fait, oui.
Alors, on a beaucoup parlé de l'histoire. Un roman, ce n'est pas qu'une histoire. C'est aussi, évidemment, il y a un travail d'écrivain. Vous avez beaucoup travaillé l'ironie. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'ironie, parce que vous êtes très présent dans ce texte. Je ne sais pas comment dire. Vous commentez un peu ce qui se passe. Vous donnez. On pense à des grands exemples, hein, par exemple celui d'Echnoz, qui a pu faire ça dans certaines fausses biographies. Est-ce que c'est un auteur qui vous inspire? Ou en même temps, on pense aussi à des textes plus lointains. Et j'ai vu que vous étiez spécialiste du 18e, et je me suis demandé si vous n'aviez pas été retrouvé quelque chose de l'esprit du 18e.
Bah, tout à fait. Vous avez tout dit. Là, j'ai quasiment rien à ajouter. Alors déjà, ça me fait très plaisir que vous évoquiez Echnoz, parce que un des textes qui était véritablement
Son texte sur Tesla, quoi.
Exactement, oui, tout à fait. Des éclairs.
Voilà, des éclairs.
En fait, il y a cette trilogie biographique d'Echnoz qui est splendide. Des éclairs. Courir et Ravel, n'est-ce pas? Et ça a été effectivement un travail romanesque qui a influencé le mien, notamment par son parti de la concision, C'est effectivement un travail biographique, mais qui justement prend un angle particulier, comme moi j'ai pu prendre le parti de la haine pour tisser ensemble ces deux biographies. Et je suis content aussi que vous ayez noté cette marque du XVIIIe siècle, parce que effectivement c'est ma formation, c'est aussi ça que j'enseigne essentiellement aux États-Unis. Et il y a un côté effectivement, je dirais un peu voltairien dans tout ça, le Voltaire des lettres philosophiques qui voyage en Angleterre et qui va effectivement mettre en scène et tourner un petit peu en dérision ce qu'il observe, et notamment il parle des Quakers dans les lettres anglaises, et Cope c'est aussi un Quaker, donc il y a différents effectivement échos, et je dirais cette espèce de distance ironique que vous avez noté très justement dans le texte, c'est tout à fait juste de dire que pour moi elle me vient de mes modèles littéraires du XVIIIe siècle, absolument, ouais.
Et là vous aviez envie de la rajouter pour qu'on vous entende aussi?
Parce
pour éviter de tomber peut-être dans du pathos ou ça.
Oui, et puis pour éviter, je dirais, surtout de tomber dans une forme de fausse neutralité. Un récit historique, c'est jamais neutre, c'est jamais objectif, c'est toujours un individu qui met les faits de l'histoire en scène. Et j'ai voulu effectivement prendre le parti de cette distance ironique, parfois un peu affectueuse aussi, effectivement pour donner un angle, si vous voulez, un point de vue narratif sur les événements, qui n'affecterait pas une forme de distance objective et froide, mais qui prendrait le parti de prendre à partie le lecteur, précisément à partir de l'ironie et d'une forme de distance un peu critique et jouissive parfois.
Moi, je donne juste un exemple que j'aime beaucoup. Il y a un moment où vous écrivez à propos d'Edouard, mais il est pressé, Edouard, il l'a toujours été, et le sera jusqu'à la fin de sa vie, impatient toujours à courir après cette idée de lui-même qui le dépasse et galope devant lui. Je pense qu'on a tous connu des Edouard dans notre vie, et je ne l'ai jamais vu exprimer aussi bien. C'est formidable.
Vous voulez nous parler de votre Edouard?
On en a tous croisé des comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut juste dire un mot des personnalités qu'on croise? On croise par exemple Buffalo Bill, le général Custer, le chef indien Red Cloud. C'est aussi un livre qui est très incarné dans son... Pas incarné, c'est pas le mot, qui est très inscrit dans son époque.
Oui, c'est... En fait... Moi, ce que j'essaye de faire depuis quelques années maintenant, c'est d'écrire des romans américains en français. C'est-à-dire que c'est aussi un roman sur l'Amérique. C'est un roman sur l'Amérique à une histoire spécifique, un moment spécifique de son histoire, cette deuxième moitié du 19e siècle. Et j'ai voulu en faire une espèce de fresque historique sur les figures majeures qui ont bel et bien croisé le chemin de nos deux paléontologues. Et effectivement, Custer, le chef Red Cloud... Parmi d'autres figures historiques importantes, Buffalo Bill également.
Est-ce que la morale de votre livre, on ne la trouve pas à un moment quand vous écrivez « Il ne faut pas se croire plus fort que ce qui a été brisé » ?
Ah oui, vous faites allusion à cette scène où un enfant Sioux, n'est-ce pas, montre des vestiges de dinosaures à Cope, alors qu'il est à la fin de sa carrière.
Il est quasiment agonisant.
Oui, effectivement, c'est vraiment la toute fin de sa vie. Je ne sais pas si c'est véritablement la morale, parce qu'à mon sens, peut-être le moment où ce que j'ai essayé de... Quand on parlait tout à l'heure de la passion, où ce que j'ai essayé d'exprimer cette ambivalence de la passion, c'est davantage dans l'oraison funèbre qui est prononcé après la bande de marche, où il est question de la...
Terrible. Qui est quelque chose de terrible, raison. C'est la vraie ou c'est vous qui l'avez écrite ?
C'est une forme de réécriture. Il se trouve que la personne qui dit cette oraison funèbre est quelqu'un qui a véritablement existé, qui était le président de l'université d'Yale. Il a écrit des mémoires et j'ai repris des fragments de ses mémoires pour, à partir de ces fragments, inventer l'oraison funèbre dont on ne sait pas ce qu'elle a été réellement.
On ne dira pas plus parce qu'il faut que les gens découvrent. Ben oui, on ne va pas les priver. On va écouter un peu de musique et on vous retrouve. Benjamin Hoffman, vous êtes l'auteur de La Guerre des Eaux. Je ne l'ai pas dit, ça s'écrit OS hein, comme un os des eaux. Et c'est un roman publié aux éditions de Noël.
Touch me. your booty from the left to the right, yeah. You know the moment when everything feels right, all the effort you've gave and made have been recognized. Yeah, come over here, baby, let's have a good time. Yeah, come over here, baby, I wanna see you shine. Yeah, come over here, baby, head banging all night. Come over here, baby, find me in the front, yeah. Come over here, baby, let's have a good time.
J'ai peur d'avoir mal prononcé, Boubou. On est toujours avec Benjamin Hoffman, auteur de La Guerre des Eaux. Et je vais faire ma petite rubrique agenda. On peut vous voir demain à 20h à la Maison de la Poésie. On pourra vous voir mercredi, donc on sera le 28 janvier à 19h à la librairie Gallimard. Et puis si on a envie de vous rencontrer avec un autre auteur qu'on a reçu à la relève, qui s'appelle Philippe Villain, ça sera jeudi à l'hôtel French Theory qui est rue Cujas. Et par contre, j'ai pas l'heure.
Vous avez l'heure ?
20h, je crois, non ?
18h30.
18h30, c'est bien, on peut prendre un verre en même temps. Vous avez d'autres dates, non? Après, vous allez à Bordeaux, je
oui,
crois.
Oui, à Bordeaux, hein, tout à fait, oui.
Bon, je ne sais pas si on est écouté jusqu'à Bordeaux, peut-être, allez savoir. Benjamin Hoffman, donc on est toujours avec vous. Récemment, j'entendais l'historien Stéphane Audouin Rousseau, qui expliquait que l'histoire ne travaillait pas sur le passé, mais sur le temps. Vous aussi, vous travaillez sur le temps, pas sur le passé. La littérature, elle travaille sur le temps.
Sur le temps, et en l'occurrence vraiment sur le temps long, puisque la Guerre des Eaux, c'est aussi un roman sur ce temps préhistorique, très immémorial, qui surgit un certain nombre de reprises dans le roman. Il y a ces scènes que j'ai voulu créer, ce sont les scènes un petit peu hallucinatoires qui surgissent dans le cours du récit, où précisément la réminiscence du monde préhistorique intervient dans la vie des personnages, notamment lorsqu'ils découvrent certains des sites de fouilles où les plus grands fossiles dont ils font la découverte ont pu être exhumés. Oui,
oui, parce qu'on peut pas tout dire, même en une demi-heure, hein, c'est pour ça que vous avez écrit un livre. C'est que c'est des gens qui ont été à cette époque-là, qui ont monté des expéditions, on peut dire ça. Ils habitaient sur la côte est des États-Unis, c'était plutôt dans un environnement protégé. Puis d'un seul coup, ils se retrouvent à monter des missions où ils vont dans des territoires indiens encore, pour certains hostiles, ouais. Et ils partent, c'est vraiment une aventure pour eux, où ils risquent leur vie.
Oui, c'est vraiment une aventure, il y a une espèce de dichotomie entre ces personnages qui sont des gens très bien, très, très, très bien placés, très bien sur eux, à bien des égards, sont des autorités, et qui vont dans un espace américain, à l'ouest des États-Unis, à l'époque où le pays s'ouvre grâce à la voie transcontinentale, qui est véritablement l'espace qu'on connaît en anglais de wilderness, vraiment l'espace sauvage, l'espace sauvage, où se trouvent également des tribus amérindiennes hostiles. Et là, il y a vraiment une des choses qui m'a séduit dans leur histoire, c'est une forme de prise de danger, de prise de risque. Hein, c'est-à-dire que c'est à la fois une obsession et un désir de connaissance, mais qui n'est pas juste poursuivi dans des cabinets de travail, dans des bureaux. Les deux mettent à plusieurs reprises leur vie très clairement en danger afin d'exhumer les fossiles de dinosaures qui les fascinent.
Alors ils ont ceci de paradoxal, et votre roman aussi, c'est qu'on est au 19e siècle, en tout cas en France, les États-Unis au 19e siècle, on imagine une nation jeune, une nation émergente quasiment, et eux deux, ils vivent en fait dans le passé, parce qu'ils sont en permanence à la recherche de fossiles. Ils ne sont pas du tout dans la jeunesse de ce pays.
Il vit effectivement dans le passé, dans l'obsession de ce monde préhistorique, mais néanmoins, ils contribuent l'un et l'autre à la constitution de la science et de l'Amérique moderne. En effet, lorsqu'ils commencent leurs études, les États-Unis sont encore une puissance intellectuelle de second rang. Les intellectuels américains vont plutôt poursuivre leurs études de doctorat ou de post-doctorat en Allemagne, en France. Il y a vraiment l'idée qu'on est véritablement un scientifique américain de reconnu, que pour autant que l'on est allé en Europe, au contact des véritables autorités de leur époque. Et j'ai que dans l'espace d'une génération, la leur précisément, les États-Unis deviennent une puissance scientifique de premier rang ou qui commence à inverser précisément ce mouvement géographique, où ce sont davantage les chercheurs de l'Europe qui vont venir parfaire leur formation aux États-Unis. Et là, ils ont véritablement été instrumentaux dans la constitution de cette supériorité scientifique américaine.
Mais en même temps, vous écrivez une scène quasiment à la Henry James, quand Marsh vient à Oxford, oui. où il découvre que finalement, chez ses cousins britanniques, enfin ses cousins au sens pas biologique, enfin chez ses pères, chez ses pères britanniques, il n'est pas grand-chose. On le méprise un peu, on le regarde de loin.
Il n'est plus grand-chose, oui, tout à fait. D'une certaine manière, il marque l'histoire de la science, mais comme, c'est un mot que j'emploie dans le texte pour le désigner, comme un pionnier. Celui qui ouvre un monde nouveau, mais qui l'ouvre avec des techniques qui sont encore rudimentaires. Tandis que la génération qui va venir ensuite va commencer à parfaire les méthodes de recherche des fossiles, les méthodes d'exhumation de ces derniers. Et c'est en cela qu'il passe un petit peu pour un has-been, parce qu'il a été tout à fait déterminant dans la constitution de cette science paléontologique, mais en même temps, il incarne un état déjà révolu de cette science à la fin du 19e siècle.
On est tellement à une époque où c'est artisanal qu'il y a tout un moment même où il se passe quelque chose de très drôle, avec une tête qui est placée du mauvais côté, et donc du coup on se trompe sur la longueur du dinosaure, ou même des débats autour d'une classe de dinosaures qu'on croit avoir inventée, qu'il l'a pas été, mais qu'il est peut-être.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les deux...
On voit bien à quel point tout est mouvant.
Oui, absolument. Ces deux paléontologues ont travaillé avec une telle frénésie qu'ils en sont venus à faire un certain nombre d'erreurs. C'est pour ça qu'ils ont une espèce de postérité relativement contrastée dans l'univers scientifique américain. On reconnaît l'importance de leur contribution, mais en même temps, les scientifiques américains actuels sont aussi conscients des erreurs de classement qu'ils ont induit justement en donnant parfois deux noms différents à une même classe de dinosaures. Donc ils sont aussi à l'origine d'un certain nombre d'erreurs scientifiques. Oui.
Est-ce que vous avez écrit ce livre pour oublier la réalité états-unienne actuelle ou pour en parler autrement ? On pourrait trouver plein d'échos.
Je dirais davantage pour en parler autrement. Tout à l'heure, on parlait du choix du point de vue dans le roman, notamment du jeu, vous qualifiez à juste titre d'ironique, avec une certaine distance. C'est un jeu aussi qui est ancré dans l'état actuel des États-Unis et qui sélectionne dans le passé des événements qui sont aussi pertinents pour éclairer les États-Unis actuels. C'est-à-dire que, par exemple, je fais référence à William McKinley, qui était cet homme politique américain président de l'Ohio, qui est devenu effectivement président, qui était véritablement à l'origine de la politique des droits de douane, de la hausse de ces droits de douane, et notamment aussi d'une politique impérialiste, et qui a un écho évident dans la politique américaine
actuelle.
C'est
l'idole, Donald Trump dit que c'est son président préféré.
Oui, absolument, c'est une des références directes de notre président actuel, oui, tout à fait.
Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que, en racontant leur histoire à ces deux-là, vous avez eu envie de les réconcilier par-delà la mort ?
Alors, il est vrai que sans dévoiler la...
En tout cas, de les réunir, peut-être.
Sans dévoiler la fin du livre, il y a une espèce de rencontre post-mortem des deux personnages dont la lutte, le conflit se poursuit jusque de nos jours. J'ai plutôt que de les réconcilier, j'ai voulu montrer que ils n'ont en vérité réussi leur objectif, c'est-à-dire de marquer l'histoire de la science, de passer à la postérité, non pas en dépit de l'autre, mais l'un par rapport à l'autre. C'est pour autant qu'ils ont été en conflit, pour autant qu'ils se sont détestés avec cette intensité, que nous parlons d'eux aujourd'hui.
Il y a quelque chose de terrible en refermant votre livre, c'est qu'on se demande si c'était bien entendu, s'ils auraient réussi ce parcours scientifique aussi formidable l'un et l'autre.
C'est
une grande interrogation avec laquelle on reste.
C'est possible, et c'est une interrogation que j'essaye de susciter dès l'épigraphe du roman, qui est emprunté à Shakespeare, et qui dit ceci: on peut beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour.
J'espère qu'il a raison. J'aurais dit qu'on peut vous retrouver demain à 20h à la Maison de la Poésie, mercredi à 19h à la librairie Gallimard et jeudi à 18h30 à l'hôtel French Theory. Merci beaucoup Benjamin Hoffmann.
Merci à vous.
D'être passé par notre studio. Je redonne le titre: La guerre des eaux, c'est votre roman, il est publié chez De Noël. Et puis si quelqu'un de chez votre éditeur nous écoute, je leur tire les oreilles pour ne pas avoir publié vos précédents romans en poche. Voilà, c'était La Relève, préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Cette émission et toutes les précédentes sont disponibles sur le site de Radio Campus Paris. À 19h, vous retrouvez La Matinale. Et à 20h, nos amis de musique particulière dans l'émission Absence. Bonne soirée.